La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume 69. Oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Je suis tombée dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mes yeux se sont usés à t'attendre, mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre de cheveux de ma tête. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours, que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde, que le courant ne m'emporte plus et que la tombe ne se referme pas sur moi.
Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, et j'en trouve aucun.
Ce passage que nous venons de lire, des extraits, on n'a pas lu tout le psaume 69. C'est un passage qui est prophétique et qui s'applique au Messie, surtout au moment quand il est sur la croix. Cependant, il peut être aussi d'actualité, surtout pour un réfugié qui décide de traverser la Méditerranée. Vous allez m'excuser, mais je ne peux pas m'empêcher de parler d'un sujet que Claudine a déjà fait référence ce matin. Aylan Kurdi, l'enfant syrien de 3 ans, dont les images du corps sans vie retrouvées sur une plage turque, ont horrifié et ont ému non seulement l'Europe, mais le monde aussi. Les photos de cet enfant, t-shirt rouge, short bleu, porté par un garde-côte turc, qui ont fait la une des principaux médias du monde entier. Je vais vous citer seulement quelques titres des premières, des principaux journaux. L'enfant de quelqu'un. L'Europe divisée. Petite victime d'une grande catastrophe insupportable, une image qui interpelle la conscience de l'Europe. El País se demandait jusqu'à quand l'image de la honte. Mais cet enfant, qui n'est une que parmi les 2643 victimes qui ont péri cette année en essayant de traverser la Méditerranée, plus de 350 000 réfugiés sont arrivés en Europe en 2015, fuyant pour la plupart le conflit en Syrie, mais aussi d'autres conflits dans le monde. Le Haut Commissariat pour des Nations Unies pour les réfugiés dénombre ces 5 dernières années au moins 14 conflits qui ont éclaté dans le monde. 8 en Afrique, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, où il y a des soldats français, la Libye, le Mali, le nord du Nigeria, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et cette année, le Burundi. Il y a eu 3 au Moyen-Orient, la Syrie, qu'on connaît tous, l'Irak, le Yémen, 1 en Europe, n'oublions pas l'Ukraine, ce qu'on appelle un conflit de basse intensité, mais toujours un conflit, et 3 en Asie, au Kyrgyzstan, plusieurs régions du Myanmar et aussi du Pakistan. Le 18 juin, c'est la journée internationale du réfugié. Et chaque année, le HCR à Genève, il publie un rapport qui alerte, ou qui fait l'état de la situation. Cette année, par rapport à 2014, le rapport dénombrait un nombre record de réfugiés et déplacés dans le monde. 60 millions, presque la population de la France. Le double, presque le double, du nombre de réfugiés d'il y a 10 ans dans le monde. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Le rapport parle même d'une accélération saisissante. Et nous ne sommes pas encore au plus grand. Plus de la moitié de cette population réfugiée est composée d'enfants. Nous avons tendance à penser que la plupart des réfugiés viennent dans les pays riches, qu'ils viennent en Europe, aux États-Unis, en Australie. Mais c'est faux. Près de 9 réfugiés sur 10 se retrouvent dans les pays considérés comme économiquement moins développés. Je vais vous donner quelques chiffres. Le Liban a accueilli 800 000 réfugiés syriens. La Jordanie, 1 100 000. C'est 23% de la population de ce pays. La Turquie, presque 2 millions de réfugiés. C'est honteux que tous les pays de l'Europe ne soient pas capables d'accueillir dignement les 350 000 réfugiés qui sont arrivés cette année. Je parlais cette semaine avec le directeur d'ADRA Serbie. ADRA France soutient un projet qu'ADRA Serbie a mis en place avec le Haut Commissariat pour les réfugiés à Belgrade. Et c'est un projet de soutien psychologique. On ne distribue pas de nourriture, on ne distribue pas des abris, on ne donne pas de médicaments, on ne donne pas de couverture, mais on assiste psychologiquement les réfugiés. On les écoute, on les conseille, on leur dit quoi faire. Et il me commentait que écouter, raconter les difficultés et les privations dont les réfugiés doivent endurer dans leur voyage, ça faisait froid dans le dos. Des réfugiés qui disaient que c'est pire ce qu'ils endurent pendant le voyage que pendant la guerre dans leur pays d'où ils sont enfuis. Je ne peux pas rester insensible aux histoires des réfugiés et des immigrés. Peut-être que moi-même je suis un immigré, peut-être parce que dans le passé, quand j'avais 5 ans, ma famille a fui un pays en guerre. Nous sommes restés plusieurs jours à dormir sur le banc d'un aéroport en attendant un avion qui nous fasse sortir de cet enfer. Mais je ne suis pas le seul. Je suis sûr qu'ici, et je sais que dans cette église, il y en a aussi des histoires similaires d'immigrés, de réfugiés, de pieds noirs, d'étrangers qui sont arrivés en France et qui aussi ont dû passer par des difficultés. Parmi les millions d'histoires de réfugiés, j'ai choisi une qui m'interpelle. L'objectif de cette histoire n'est pas de vous choquer, mais de vous faire réfléchir. C'est une jeune maman de 20 ans, à peu près, qui nous livre son récit. Et je passe à le lire. Mon mari m'a réveillée au milieu de la nuit. Il m'a dit que nous devrions partir tout de suite. Il avait été informé que des unités de soldats du gouvernement arrivaient. Nous pourrions prendre seulement ce que nous pourrions porter. J'ai enveloppé mon bébé afin de le garder au chaud. Nous avons marché pendant des jours et des jours jusqu'à la frontière du pays voisin. Plus tard, nous avons entendu ce que les soldats ont fait. Ils ont tué tous les bébés garçons dans notre village. Où nous vivons maintenant, la nourriture et la langue sont étranges. Mon bébé grandit sans connaître son pays d'origine. Mais il n'est pas sûr de rentrer chez nous, pas encore. Est-ce que cette histoire vous semble familière? Elle devrait, parce qu'elle se trouve en Matthieu 2, du verset 13 au verset 18. Oui, c'est vrai. Jésus aussi, il a été un immigré. Il a été un réfugié. Et c'est paradoxal que c'est le continent africain qui a accueilli Jésus, qui l'a protégé, qui l'a sauvé. Et nous, Français, habitant à Damary, en France, en 2015, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle devait être notre attitude face aux migrés, aux immigrés, aux réfugiés? Vous verrez que moi je vais utiliser immigrés, réfugiés, étrangers, c'est une question de sémantique. Mais la catégorie, c'est toute la même. Quelle devrait être notre attitude? On peut dire que c'est prophétique, que c'est un signe des temps. Ça veut dire que Jésus bientôt va venir. On peut étudier davantage les prophéties, être davantage affermi dans ses convictions sur le moment particulier dans lequel nous vivons actuellement. Nous pouvons nous consacrer davantage à l'évangélisation, dire que la seule solution au problème de ce monde est le retour de Jésus, ce qui est vrai. Mais est-ce que cela est suffisant? Il peut y avoir des thèmes dont l'interprétation dans la Bible est un sujet de polémique. On a vu cette année l'ordination des femmes, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ce n'est pas mon objectif de parler de cela. Il y a ceux aussi qui peuvent défendre, est-ce qu'on peut boire ou pas boire du vin? Quel est l'état des morts? Il y a des sujets qui peuvent être plus ou moins polémiques. Mais personne ne peut dire que la Bible laisse dans l'ignorance quelle devait être notre attitude face aux réfugiés, face aux émigrés, face à l'étranger. En ce point-ci, on n'a pas d'excuse parce qu'il y a plein de textes dont on va passer un peu de temps à les lire. Plusieurs fois, nous entendons parler dans les médias de personnes qui profitent du système. Et nous sommes tentés de mettre dans le même panier, dans le même lot, tous ceux qui sont tricheurs. Mais attention, ne laissez pas que ces histoires vous empêchent d'obéir aux commandements de Dieu. Dieu nous laisse des instructions précises. Nous devons accueillir l'étranger, le migrant, le réfugié, dans le nom de notre Seigneur qui est lui-même un refuge. Plaidoyer. Nos politiques de réfugiés sont souvent inexistantes et elles ont tendance à se détériorer dans les temps économiques difficiles. C'est vrai que plus la crise augmente, plus on a tendance à créer des barrières. Mais qu'est-ce que nous disons quand les politiciens viennent à notre porte? Est-ce que nous signons des déclarations où nous disons que nos gouvernements devraient faire plus pour les réfugiés? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront élus? Je vous invite à ouvrir Proverbe 31, qui nous dit quelle devrait être d'abord notre attitude. Proverbe chapitre 31, le verset 8 et le verset 9. Et là, nous est dit quelle devait être notre attitude, surtout par rapport à ceux qui ne parlent pas notre langue, qui ne peuvent pas parler. Ouvre ta bouche pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Verset 9, oui, parle et juge équitablement, défends les droits des malheureux et des nécessiteux. Tout d'abord, Dieu nous dit que nous devons traiter les immigrants de la même façon que les autochtones. Exode 22, 20, 23, Exode 23, 9, qui, je vais citer, « Tu n'opprimeras pas l'étranger qui travaille dans ton pays. Vous savez vous-même ce qu'éprouve un étranger, puisque vous l'avez été en Égypte. » Un peu plus loin, Lévitique 19, 33, 34, si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même immigrés en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 10, 14 au 22, je vais lire seulement le 18 et le 19. Dieu témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. Un peu plus loin, Ésaïe 56, verset 6. Tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour l'aimer, et on connaît tout le reste, eux aussi, je les ferai venir à ma montagne sainte. Je les réjouirai au temple où l'on me prie, et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière de tous les peuples. Si vous vous abstenez d'exploiter les migrés, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que je donnais à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Ça se trouve en Jérémie 7, verset 6 et verset 7. Deuxièmement, Dieu exige que les mêmes lois soient utilisées pour les autochtones et pour les immigrés. Et souvent, on entend ici en France, est-ce qu'un immigré a accès au système social, aux mêmes droits? La Bible dit que oui. Exode 12, 49 dit « Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers séjournant parmi vous. » Lévitique 24, 22 « Vous appliquerez le même jugement aux étrangers et aux autochtones, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » En troisième lieu, Dieu jugera ceux qui abusent des immigrés. Je ne fais que lire ce que la Bible dit. Je vous invite à ouvrir Jérémie 22, dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 22, le verset 3 et le verset 5. Ainsi parle le Seigneur, agissez selon l'équité et la justice. Délivrez de la main de l'oppresseur celui qu'on dépouille. N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent en ce lieu. Verset 5. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, cette maison deviendra une ruine. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec Israël et avec Juda. Ils n'ont pas écouté cette parole. Malachie 3, 5, et je viendrai à vous en vue de jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre ceux qui violent le droit de l'émigré, ceux qui ne révèrent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il y a aussi des avertissements d'être charitable envers les immigrants. Ce n'est pas seulement de les traiter de la même façon, mais d'utiliser du bien, de faire du bien envers les autres. Deutéronome 24, le verset 19, 20, 21, 22 nous rappelle « Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. » Ce sera pour l'émigré, pour la veuve et pour l'orphelin. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous que vous avez été étranger en Égypte et c'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. On connaît tous l'histoire de Ruth. Ruth, une étrangère, une Moabite, qui passe des difficultés et qui, grâce à ces lois que Dieu avait données lui-même, elle va pouvoir survivre. Elle va s'intégrer dans la société d'Israël et elle va devenir même une des antécédentes, on dit, une de la lignée, une des ancêtres, merci, une des ancêtres de Jésus, du Messie. En Deutéronome 26, verset 11, « Ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui réside au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordés, à toi et à ta famille. » Matthieu 25 nous rappelle que nous devons traiter les immigrés, les réfugiés, de la même façon que nous traiterions le Christ. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, j'étais un sans-abri et vous m'avez donné un abri. Je terminerai avec un poème. C'est un poème d'un prêtre français, Michel Coast. Je ne sais pas si je... Coast. Alors, j'ai découvert qu'il n'est pas très connu en France. Je pensais qu'il était beaucoup plus connu de ce qu'il est en réalité. Et il a été un collègue, si on peut dire, de l'abbé Pierre. Ils ont été en tout cas, ils ont vécu plus ou moins en même temps. Et il a fait un poème exactement, « Seigneur, pourquoi m'as-tu dit d'aimer tous mes frères ?» les hommes. J'ai essayé, mais vers toi je reviens effrayé. Seigneur, j'étais si tranquille chez moi, je m'étais organisé, je m'étais installé. Seul, j'étais d'accord avec moi-même, à l'abri du vent, de la pluie, de la boue. Je serais resté pur, enfermé dans ma tour. Mais tu m'as forcé à entrouvrir la porte. Comme une rafale de pluie en pleine face, le cri des hommes m'a réveillé. Comme une bourrasque, une amitié m'a ébranlé. Et j'ai laissé une porte entrouverte. Les premiers sont entrés chez moi, Seigneur. Il y avait tout de même un peu de place en mon cœur. Jusque-là, c'était raisonnable. Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes, je ne les avais pas vus derrière les autres. Ils étaient nombreux, ils étaient misérables. Ils m'ont envahi sans crier gare, et il a fallu faire de la place chez moi. Puis plus ils poussent la porte, et plus la porte s'ouvre. Ah Seigneur, je suis perdu, je ne suis plus à moi. Il n'y a plus de place pour moi, chez moi. Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné. Car tandis que ces hommes entraient chez toi, moi, ton Père, moi, ton Dieu, je me suis glissé parmi eux. Ainsi soit-il. Amen.